Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Mélanie. Se réinventer dans son métier d'infirmière et bousculer le quotidien, Mélanie l'a fait, et déjà à 3 reprises. Son témoignage est la preuve que les lieux d'exercice sont pluriels et enrichissants chacun à leur façon. Bonne écoute! Bonjour Mélanie!
Salut Marielle!
Comment tu vas?
Bah super bien!
Impeccable, tu me disais en off que c'était les vacances. Alors déjà, merci de me consacrer du temps pendant tes vacances bien méritées.
Avec plaisir. Ouais, c'est le meilleur moment pour enregistrer, je pense. Hein. C'est plus simple.
C'est vrai, c'est vrai. Je suis très contente de te recevoir, Mélanie, aujourd'hui. On va parler de ton métier d'infirmière et d'un sujet que j'aborde souvent dans tous les épisodes, qui est que quand on est infirmière, on peut exercer où on veut. On a le droit de changer de terrain d'exercice en hospitalier, en extra-hospitalier. Et cet épisode aujourd'hui va nous le prouver encore plus. Donc tu es là pour nous raconter ton parcours qui est riche, avec plein d'expériences différentes. Et pour commencer, je te laisse te présenter.
Donc moi c'est Mélanie, j'ai 36 ans, je vis dans les Hauts-de-France. Je suis infirmière depuis novembre 2009. Je suis diplômée de l'ancienne réforme. Je vis avec mon mari Rémi qui est infirmier également, qui a repris des études lui pour être infirmier en pratique avancée. On est passionnés de voyage, j'aime la lecture, la marche, voilà.
Bon, parfait, une vie bien remplie.
Exactement.
On va pouvoir parler aussi du fait d'être en couple avec un infirmier. J'imagine que il doit quand même y avoir des discussions un peu différentes d'un couple. Bah, tu vois, commencer par le mien. Hein. C'est sûr que quand il y en a un qui exerce dans la comptabilité, on parle pas de la même chose à table le soir. Hein.
Ah non, c'est sûr, j'imagine.
Donc ça va être intéressant d'en parler aussi. Est-ce que pour toi le métier d'infirmière c'était une évidence depuis le plus jeune âge?
Absolument pas, vraiment pas. Moi j'ai un parcours littéraire, donc c'est assez marrant parce que j'ai écouté l'épisode d'Eléa il y a pas longtemps, pour être préparatrice en pharmacie. Je me suis retrouvée dans tout ce qu'elle disait. Enfin, moi j'ai un bac littéraire, j'ai une passion pour les lettres, pour l'histoire, pour les langues, donc c'était vraiment à ça que je me destinais. J'ai eu mon bac en juin 2005. Entre le collège et le lycée, j'hésitais toujours sur ce que j'allais faire plus tard. J'hésitais entre la fac d'histoire, une fac de langue, de lettres, enfin changer selon Et puis quand c'est arrivé le moment de s'inscrire à la fac, j'avais choisi histoire à ce moment-là, avec passion, mais ne sachant pas ce que j'en ferais derrière. Mais j'étais très très sûre de moi. Juin 2005, j'obtiens mon bac, je m'inscris en fac d'histoire. Sauf que entre deux, ma mère est infirmière. Elle travaille au centre hospitalier de Lille et en fait, ils embauchent les enfants du personnel l'été. Et ma mère me dit, écoute, postule, t'auras du travail. Voilà, parce que j'avais 3 mois de vacances devant moi, la fac ne commençait qu'en octobre. Postule, tu te feras embaucher. Elle me dit, c'est pour faire le ménage, distribuer le repas. Ok. Donc, je postule, je suis prise. Et puis là, j'apprends que je vais être dans un... bien au CHR, mais dans un hôpital un peu excentré du CHR. Alors, apparemment, Lille, c'est très spécifique. Mais nous, tous nos bâtiments sont au même endroit. Sauf, l'hôpital cardiologique est au même endroit, la neuro, enfin tout est au même endroit, sauf la gériatrie qui se trouve dans le Vieux-Lille. Et donc ma mère me dit, mais si tu es affectée là-bas, à mon avis, tu vas faire fonction d'aide-soignante. Elle me dit donc, tu vas faire des toilettes, ce genre de choses. J'ai 18 ans, j'ai un bac littéraire, je n'y connais rien, effrayant. Enfin vraiment, je débarque là-bas, ma mère avait totalement raison. On me montre comment faire une toilette, enfin vraiment, c'était... Pour moi, la première semaine était assez terrible. Enfin, quand on a 18 ans, le corps de la personne âgée, la démence aussi qu'on ne connaît pas, c'est quand même assez compliqué. Et en fait, j'ai vite pris goût à ce travail. Finalement, je n'y ai passé qu'un mois, mais j'ai passé un mois formidable. Enfin, j'ai adoré. Je suis tombée sur des infirmières et des soignants passionnés, enfin, qui m'ont appris plein de choses, mais c'est tout. Moi, ça se terminait là. Je rentre en fac d'histoire en octobre. Je commence la fac d'histoire. Ça se passe bien. Sauf qu'en fait, le problème de la fac, c'est que c'est bien la fac. C'est passionnant, mais tu sais pas ce que t'en fais derrière. À moins d'être prof. Il y avait plein d'autres ouvertures, évidemment. Sauf que moi, je voyais pas trop ce que j'en faisais. Les mois se passent, c'est compliqué, je trouve pas trop de motivation. Janvier, février arrive et puis c'était les manifestations du CPE, donc la fac était bloquée complètement. Et donc là, de nouveau, poursuite de la perte de motivation, perte de sens, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. Et là, je sais pas, je me dis, mais si je passais le concours d'infirmière, en fait, j'ai repassé à ce mois, repensé à ce mois formidable que j'avais passé à l'hôpital et je me suis dit, mais pourquoi pas? En plus, là, je sais ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire. J'ai déjà travaillé un mois à l'hôpital, donc je sais ce que c'est. Alors, je ne sais pas tout, mais je sais ce que c'est. Et bon, j'ai arrêté la fac, j'ai passé le concours et je l'ai obtenu et voilà.
Oh,
Donc,
dis
on
donc, c'est
peut.
marrant.
Ouais, en quelque sorte, c'est quand même grâce à ma mère parce que c'est grâce à elle que j'ai travaillé à l'hôpital, mais c'est pas en quelque sorte, c'est pas elle qui m'a donné envie en me parlant de son travail parce qu'en fait,
C'est ça.
ça m'a quand j'étais adolescente, ça m'intéressait pas trop de savoir ce qui se passait dans les hôpitaux, la maladie, ce genre de choses. Et quand elle commençait à me parler de son travail, en fait, je ne voulais pas savoir. Donc,
Ah, d'accord. T'étais plus dans l'envie de pas connaître ce qui se passait derrière ces murs, etc.
exactement.
Et elle, du coup, n'était pas forcément dans l'idée de t'inciter à exercer ce métier plus tard. Donc voilà, c'était
Non,
vraiment deux
c'est
mondes
ça.
différents, quoi. Ok.
Par contre, elle a été très heureuse quand je lui ai dit que je voulais faire ça. Il y avait aussi le côté maman, sécurité de l'emploi, on va pas se mentir.
Ah, bah
Elle se
clairement.
disait, parce que quand je suis partie en fac d'histoire, elle était très heureuse pour moi parce que j'allais faire ce que j'aimais. Mais je pense qu'elle, enfin, non, elle me l'a dit, elle était très inquiète, qu'est-ce que je vais faire de ça derrière, en fait. Et là, elle se disait, bon, bah, ma fille, elle part en école d'infirmière, elle aura un travail à la fin et surtout, elle aura du travail. Bon, elle avait raison.
C'est
Donc
sûr. Et du coup,
voilà.
oui, la fac d'histoire, pour toi, c'était une façon de faire ce que tu aimais, parce que c'était voilà, une matière, même, comme tu dis, tu étais très littéraire, c'est tout un domaine qui te plaisait beaucoup, mais sans forcément de finalité côté travail.
C'est ça, exactement. D'ailleurs, on en a reparlé un peu lors de mon concours d'entrée à l'école d'infirmière. On m'a, c'était pas pour me piéger, hein. Je l'ai pas senti comme ça, mais on m'a dit, vous étiez parti en fac d'histoire, vous avez un bac littéraire. Là, vous, ce sera plus ça, votre domaine de compétences. Et du coup, je leur ai dit, bah oui, mais c'est pas grave, ça restera des passions à côté. C'est des passions que j'assouvis à côté, finalement, puisque j'aime voyager.
Clairement.
Donc, bah, l'histoire, je le vois par là. Les langues, je continue la lecture. Donc, en fait, bah voilà, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime, mais tout dans un travail qui me plaît et que j'aime également. Donc voilà.
Ok, bon, très bien. Alors, te voilà embarqué dans les études d'infirmière, du coup, après cette première année de fac. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? T'es contente, t'es excitée?
Ouais, je suis très très contente, je suis très sûre de moi. En plus, ouais, c'est vrai que je suis très sûre de moi parce que le fait d'avoir travaillé un mois à l'hôpital. Ben voilà, moi je savais. Je repense à mes anciens camarades de promo qui, eux, allaient faire leur premier stage en gériatrie. En général, l'ancienne réforme, c'était comme ça, on partait pour un premier stage en gériatrie en général. Et moi, j'y suis arrivée, mais très très sûre de moi. Enfin voilà, je savais où je mettais les pieds, pas l'inquiétude. On va te montrer comment faire une toilette. Ouais, ok. Alors ça fait très prétentieux de dire ça, mais en même temps, ben, j'avais ce bagage-là qui m'avait bien aidée. Et du coup, j'étais très excitée, très contente et... Je savais que j'étais à la bonne place. Bon, alors il y a eu des moments de doute hein, pendant les 3 ans, évidemment, comme tout le monde,
Bien
mais
sûr.
pas au point de me dire que je vais arrêter et que je vais faire autre chose. Mais en tout cas, ouais, j'ai commencé les études très, très sereinement.
Et au fur et à mesure de tes stages, est-ce qu'il y a un domaine d'exercice qui commence à t'intéresser un peu plus qu'un autre?
Alors oui, chaque année, nous, on faisait un stage en chirurgie hein, dans l'ancienne réforme. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup la chirurgie, j'aimais beaucoup la rigueur. Le fait qu'on savait, par exemple, on fait un stage en traumatologie, un patient se fait opérer d'une prothèse de hanche, c'est souvent la même chose qui se passe, c'est très protocolé, très rigoureux et tout ça. Et j'aimais beaucoup ça. Du coup, j'avais demandé à passer mon diplôme de fin d'études dans un service de chirurgie, comme j'étais très à l'aise avec ça. Et puis, en fait, bah non, je me suis retrouvée dans un service de médecine. Donc, j'étais un peu déçue, enfin, même très, très, très déçue. Et en fait, bon, j'ai quand même adoré ce stage de médecine. Et il s'avère que je l'ai passé dans l'hôpital où j'ai travaillé par la suite. Donc, bon, en fait, les choses se sont bien faites. Enfin, rien n'arrive par hasard, on le dit toujours. Mais là,
C'est
effectivement,
ça.
d'avoir fait ce dernier stage-là, bah, j'ai postulé là-bas. Et après, bon, voilà.
Donc du coup, en médecine, est-ce que tu peux nous raconter? C'est un domaine d'exercice. Le mot médecine, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas trop ce qu'on fait rentrer dedans.
Ben oui, c'est vrai que ça peut
Alors, est-ce que
tout
tu
et
peux nous
vouloir
expliquer?
dire médecine. Ben, médecine, il y avait des services de neurologie, des services de cardiologie, des services de pneumologie. Là, moi, en l'occurrence, j'étais en cancérologie. Et dans l'hôpital où je travaillais, donc en fait, il y avait des services par spécialité, le service de pneumologie, le service de médecine gynéco de la femme, forcément. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Chirurgie, voilà, tout ce qui était digestif. Enfin, voilà. Donc, et moi, je l'avais passé en... Ah là là, bah je sais même plus d'ailleurs c'était quoi le service parce qu'il n'existe plus. Mais c'était un hôpital de semaine, on branchait des chimiothérapies, donc voilà, grosso modo
D'accord.
c'était ça. Voilà.
D'accord. Alors, diplôme d'État en poche, du coup.
C'est ça, novembre 2009.
Impeccable.
Je ne postule pas tout de suite. Je suis un peu. Au début, je pensais pas postuler dans cet hôpital. J'avais un petit peu peur quand même de commencer à travailler parce que c'est très très effrayant. Moi, je trouve quand même. Enfin, on a la vie des gens entre nos mains. On peut se tromper. On peut. Enfin, voilà, c'est pas rien. Mais bon, en janvier, j'ai commencé à me dire bon, faut postuler. T'as passé un bon stage. Postule dans ce centre anti-cancer. Donc, j'ai postulé. Ils m'ont prise et j'ai commencé à travailler en février 2010. Du coup, début février 2010, de nuit d'abord.
Ok.
Pour commencer, pendant 3 ans, j'ai fait de la nuit.
C'était un choix personnel ou est-ce que ça s'est présenté comme ça quand t'as postulé?
Absolument pas un choix personnel, mais j'étais plutôt pour, donc c'était chouette. Ma mère était infirmière de nuit, hein, je l'avais vue travailler pendant 20 ans de nuit.
Ah, d'accord.
Bon, ça me, voilà, ça m'allait bien. La spécificité dans cet hôpital, c'était assez sympa, c'est qu'on n'était pas rattaché à un service. En fait, en fait, on travaillait 7 jours, donc 7 nuits de suite, et ensuite on avait 7 jours de repos. Ouais, alors faut les faire, mais quand on voit
7 nuits de suite.
Ouais, mais les nuits coupées, comme on peut faire dans d'autres hôpitaux où on travaille par exemple lundi, mardi, puis mercredi, jeudi, on est en repos, vendredi, samedi, dimanche, on retravaille. Mais en fait, on prend jamais le rythme. Que quand on faisait nos 7
C'est
nuits,
vrai.
on travaillait 7 nuits, et ben on faisait rien d'autre. Par contre, après, on avait 7 nuits à la maison, on avait le temps de reprendre un rythme et d'être chez soi. Mais il faut les faire, les 7
Mais
nuits.
ouais, alors cette nuit en 10 ou en 12 heures?
10 heures, nous, c'était. Ouais.
10 heures, mais c'est
Ouais.
énorme quand
C'est
même.
énorme.
Oh,
Ouais. Surtout
alors.
quand t'arrives la dernière. Enfin, pas la dernière. La dernière, c'est la dernière. Moi, je dis toujours, il peut tout arriver. C'est la dernière, l'avant-dernière, où t'en as cinq dans
Ah.
les pattes. Tu sais que c'est pas la dernière et c'était très, très fatigant. Mais du coup, ça a commencé le jeudi, en fait. On commençait le jeudi et donc on arrivait dans nos vestiaires et là, on avait l'affectation pour notre semaine, en fait. On découvrait dans quel service on allait travailler. Donc,
Pour la
c'était
semaine
très.
entière.
Ouais, ou parfois, en fait, non. Des fois, on était, par exemple, moi, j'ai fait, par exemple, 4 nuits en pédiatrie et puis 3 nuits en neurologie digestive. Voilà. Mais en général, quand même, les
D'accord.
cadres essayaient de nous faire faire les 7 nuits,
Au même
dans le même
endroit.
service pour la continuité des soins. C'était quand même plus sympa.
Ça a un côté formateur, les nuits aussi. Enfin, j'ai ce souvenir-là où il y a quand même un peu plus. Alors, il y a beaucoup d'entraide déjà entre collègues et puis il y a un peu la volonté de se débrouiller parfois avec ce qu'on a. Enfin, c'est un univers qui est particulier.
Ben c'est ça, moi je suis arrivée, jeune diplômée. Franchement, j'ai l'impression que je ne savais rien faire en fait. Parce qu'on fait nos 3 ans d'études, mais je trouve qu'on apprend tout quand même quand on est diplômée, entre guillemets, livrée à nous-mêmes. Ouais, j'ai l'impression de savoir rien faire, mais je suis tombée sur des gens formidables qui m'ont tout appris. Et je ne parle pas que du technique, hein, je parle aussi de l'humain. Voilà. Et le fait de changer de service toutes les semaines aussi, ça a été très très formateur. Parce que du coup, j'ai appris plein de choses dans tous les domaines de la cancérologie. Et ça, c'était chouette. Comme je dis, j'ai même fait de la pédiatrie, bon, qui n'était pas du tout mon souhait par contre et que j'ai détesté, mais ça a été formateur. J'ai appris des choses et je regrette pas quand même. Voilà, mais il y a le petit côté stress. Si tu arrives le jeudi et tu dis, je vais être dans quel service? Parce que bon, on avait nos préférences évidemment, notamment bon, quand
Ouais.
je faisais la pédiatrie, j'aimais pas ça. Et donc, chaque jeudi matin, quand je me réveille, je me disais, oh là là, je vais être où ce soir? Oh là là, j'espère que ça va pas être encore la pédiatrie. Enfin, c'était voilà,
Ouais, ça fait
un
quand
peu
même beaucoup
stressant.
d'inconnus et du stress. Ouais, chaque semaine, un nouveau stress. Donc ça, du coup,
Ouais.
tu nous as dit, ça dure, ça
Trois
t'est
ans.
resté 3 ans, hein, c'est ça.
Ouais,
Ok.
c'est ça. Après, la fatigue commençait à s'installer, le décalage avec la vie des autres aussi était compliqué parce que c'est vrai que, bah, comme je te disais, pendant 7 nuits, tu ne peux rien faire en fait.
C'est ça.
C'est
Au
ça, tu
travail.
dors, enfin, ouais, tu travailles, tu dors, tu travailles, tu dors. Et moi, ça devenait compliqué personnellement. Et du coup, j'ai voulu passer le jour. Et donc, j'en ai fait part à mes cadres qui n'étaient pas contre. Hein. De toute façon, à un moment, ils ne peuvent pas mettre des freins aux gens. Surtout quand ils veulent passer de jour. Ça a pris quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, parce que je voulais à tout prix du coup passer dans un service de médecine. Comme quoi,
Ah,
voilà,
dis donc.
je ne parlais que de chirurgie, mais là, j'avais découvert la médecine et je ne voulais faire que ça. Et du coup, entre deux, on m'avait proposé de passer 2 jours dans un service de chirurgie, mais j'avais dit non. Du coup, j'ai préféré attendre pour passer dans un service de jour en médecine. Et du
D'accord.
coup, ça nous amène en septembre 2012, où j'arrive dans ce service de médecine, gynéco de la femme, donc tout ce qui est cancer du sein et cancer gynéco en général.
Avec un rythme du coup de travail un peu plus conventionnel et du coup le switch voilà de la nuit vers le jour se passe bien pour toi?
Très très bien, j'avais très peur là. Je me revois encore ce dimanche soir en me disant, oh là là, demain je commence à 6h30, comment ça va se passer? Et en fait, j'ai dormi sereinement. En fait, Je pense que j'attendais ce passage avec impatience et du coup j'étais très très heureuse, j'ai bien dormi, ouais. J'ai eu aucun problème à me remettre dans un rythme. Je pense que 3 ans c'était bien.
C'est ça. Ouais.
Voilà, c'était pas trop, donc ça a été.
Pas trop, ouais. Mm. Parce que le switch, alors le switch de jour à nuit est difficile, hein, c'est un rythme à prendre, vraiment. Mm. Mais le switch de nuit à jour, je le trouve dur aussi parce que pendant les périodes de nuit, on est. Alors, je ne sais pas quel terme employer. J'allais dire moins stimulé. C'est pas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la journée, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de visites, beaucoup de médecins, beaucoup d'interlocuteurs, le téléphone qui sonne. Et la nuit, il y a ce côté un peu plus calme. Alors, c'est pas plus simple. Mais la journée peut être très stimulante. Et du coup, je me demande, voilà, quand on sort de 3 ans de nuit, comment ça se passe?
Alors, par contre, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Tout ce monde qu'il y avait, les familles, le bruit sans cesse, les gens qui rentrent en salle de soins pendant qu'on fait les transmissions, donc le passage entre les différentes équipes. Les gens, ils rentrent et puis les brancardiers, ils rentrent, ils travaillent avec leur vie, leur machin et tout. Et je me dis, mais c'est pas possible, tout ce bruit. Enfin, on était coupés sans cesse. Les lumières aussi, parce que moi, je travaillais beaucoup à la lampe de poche, en fait. Sauf quand j'avais des gros soins à faire, évidemment. Mais je me sentais agressée quand même les premières semaines. Et je pense que ça a duré très longtemps. Mais bon, c'est normal, en fait. Enfin, il y a une vie à l'hôpital. Hein, voilà, mais c'était un petit peu difficile, ce côté-là. C'est vrai que tu as raison. Un peu compliqué, ouais, en effet.
Ouais, le switch entre les deux. Alors du coup, comment ça se passe pour toi dans ce service de médecine autour de la femme? Tu t'épanouis dans ce nouveau rôle?
Ah, j'ai adoré. Je pense que ça a été jusqu'à présent mes 4 années. Enfin, là où je me suis sentie le plus heureuse, le plus épanouie, le plus. Enfin voilà, j'ai adoré. Je suis tombée sur une équipe formidable. De toute façon, je les appelle la Dream Team. On avait tous notre caractère différent, mais ça s'imbriquait bien. On travaillait bien ensemble. Il y avait un truc. Il y avait. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'était parfait. Le médecin était génial. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Après, voilà, c'était pas un service facile, hein. Ça reste un service de médecine. Donc, en fait, nous, on accueillait des patients, des patientes. En l'occurrence, enfin non, ça pouvait être aussi des hommes, puisqu'il y a des hommes qui peuvent avoir des cancers du sein. Et puis on accueillait aussi des patients d'autres services quand il n'y avait plus de place, en fait. Mais en majorité, c'était quand même des femmes. On accueillait des femmes, en fait, qui étaient malades de leur cancer, c'est-à-dire qui rentraient pour nausées, vomissements, douleurs, fin de vie. D'accord. On avait quand même beaucoup, beaucoup de décès dans le service. Voilà, donc c'était pas un service facile, mais il y avait une telle entraide, une telle. Il y avait une qualité de travail aussi que j'entends très peu dans les autres hôpitaux. On était beaucoup. Par patient, et ça on en rigole souvent avec mon mari, il se moquait de moi à chaque fois parce qu'il me disait ah, vous étiez encore 4 infirmiers ce matin pour 8 patients, alors il en rigole parce qu'il sait très bien que derrière en fait tu pouvais passer une heure à faire une toilette d'une personne qui était en fin de vie, voilà, mais on avait une qualité de travail qui était très très agréable, vraiment j'ai adoré ces années, enfin, c'était parfait.
Ouais, c'est des services qui sont souvent et heureusement bien staffés. J'espère que c'est encore le cas aujourd'hui en 2023, mais voilà, dans lesquels il y a un confort normalement en termes de nombre d'infirmiers, d'aides-soignants par patient, par patiente, pour qu'on ait justement le temps et la possibilité aussi de se dire Madame X préfère avoir sa toilette à 10-11 heures du matin, et ben on attend un peu, on lui fera un peu plus tard, on décale les soins, c'est le soignant qui s'adapte au patient et pas l'inverse. Je dis pas qu'en chirurgie, par exemple, les patients s'adaptent pas, que les infirmiers s'adaptent pas aux patients, mais voilà, il y a une plus grande souplesse en tout cas de ce côté-là.
C'est ça. Et on avait aussi, c'était un hôpital qui avait des moyens. Et donc, j'ai jamais souffert aussi de manque de matériel. Et ça, c'était vraiment chouette. Ah, par contre, le petit bémol, c'est que l'après-midi, le week-end, le samedi et le dimanche après-midi, tu étais toute seule comme infirmière. Tu n'avais pas d'aide-soignante, tu étais toute seule. Ouais, alors on passait à gap de la semaine où on était un nombre incroyable à le samedi après-midi, tu étais toute seule. Alors, des fois, tu avais un étudiant, donc tu étais content, même s'ils ne sont pas là pour combler, hein, on le sait. Mais quand tu as un bon étudiant avec toi, tu étais contente. Parce que ça te fait des bras aussi, parce que quand tu as un patient en fin de vie qui est dans son lit, que tu ne peux pas soulever, que tu es toute seule, alors heureusement, on avait le service d'à côté, le service d'ORL qui venait nous donner un coup de main. C'était un peu plus light chez eux en général le week-end, mais moi, j'avais toujours peur de ces samedis, ces dimanches après-midi toute seule, en fait.
Tu m'étonnes.
Ah ouais, c'était le gros bémol, c'est juste ça, mais le reste, c'était bien. Mais j'ai jamais compris de toute façon ce fonctionnement, mais Je pense que j'aurai jamais la réponse de pourquoi
C'est ça. Il y
on
a des
passe de ça à
mystères comme
ça.
ça.
Ouais, c'est ça.
À ce stade-là de ta carrière, tu es dans quel. Est-ce que tu as une vision pour l'avenir de te dire l'hospitalier, c'est mon truc, je vais y rester. Tu es dans quel état d'esprit?
Ben, moi, pendant des années, pour moi, j'étais arrivée au centre, dans mon hôpital. J'allais y rester presque toute ma vie parce qu'en fait, les anciens, par exemple, je vois ma mère ou je vois les anciens soignants quand je suis arrivée de nuit, ils avaient passé toute leur vie dans le même hôpital. Et pour moi, c'était du coup normal de faire ça. Je me dis, je suis rentrée dans cet hôpital et je vais y rester toute ma vie. C'est marrant, hein, mais vraiment, je ne voyais pas faire autre chose. Et puis le confort de travail était tel que je me disais, bah, de toute façon, je vais pas quitter cet hôpital pour aller dans un autre hôpital où il y a moins de confort. Parce que dans ma tête, en fait, je ne pouvais faire que de l'hôpital, en fait, que de l'hospitalier. Donc, de toute façon, j'allais rester. Enfin, je ne voyais que ça.
Et la vie s'est passée un peu différemment.
C'est ça. En fait, je pense que ça a commencé l'été 2016 où ça a été un petit peu compliqué. Bah, la cancéro, c'est pas simple, hein, évidemment. Les patientes avaient de plus en plus notre âge. Et pas parce que je vieillissais, mais parce que je trouvais que j'avais l'impression que ça touchait quand même de plus en plus de jeunes. Donc c'était quand même
Ah
compliqué à
oui.
gérer émotionnellement. Bah, t'as 30 ans, puis en face de toi, t'as une jeune de 30 ans avec un cancer du sein qui va pas bien. Donc franchement, c'est vraiment très difficile. Mais bon, c'est tout. Il y avait l'entraide avec mes collègues, ça se passait bien. Sauf que entre septembre et novembre, elles sont toutes parties les unes à la suite des autres. Deux sont parties en libéral, une est passée de nuit, une est partie dans un autre service, un qui est en train de partir pour le sud de la France. Enfin voilà. L'équipe, la Dream Team, en fait, n'était plus. Donc en fait, quand ça devient compliqué au travail et qu'en plus ton équipe part, ouais, tu te dis,
Ouais.
mais qu'est-ce que je fais là en fait? Enfin,
C'est
voilà.
souvent un peu le déclencheur d'ailleurs. Il y en a un qui part et puis après il y a quand même une vague souvent. Hein. Ouais. Dans des
Ouais,
équipes
c'est
soudées,
ça.
en tout cas, c'est vrai.
C'est ça, exactement. Et puis, donc moi, j'avais deux amis qui étaient partis en libéral. Ça ne me faisait pas plus envie que ça, mais bon, c'est tout. Et ma mère, entre deux, était partie en retraite, mais avait fait un petit peu de libéral après sa retraite pour garder un pied quand même un peu dans le soin. Et puis elle m'avait dit un jour, oh, bah, viens passer une journée avec moi si tu veux, tu verras comment ça se passe, machin. Donc je vais passer une journée avec elle. Alors, je me dis, oh, c'est chouette en fait. Et en fait, elle me dit, ah, bah, l'infirmière avec la enfin, que je remplace, elle cherche une remplaçante, réfléchis. Et en fait, je pense que j'ai pris ma décision une semaine, j'ai dit bon allez moi aussi je
Ah oui.
pars et je pars en libéral. Ouais, alors moi j'ai toujours pris mes décisions très très vite en général. Et voilà, du coup me voilà en décembre 2016 à démissionner de l'hôpital. Parce que nous ils font pas comme ils peuvent faire dans les hôpitaux publics, comme on appelle ça,
Oui, des disponibilités ou
C'est
des
ça,
choses comme
voilà.
ça.
Ouais. Oui, nous, enfin, tu
OK.
peux demander, mais c'est refusé, donc tu redemandes. Enfin bref, moi je voulais pas rentrer dans ce jeu-là. J'ai dit bon allez, je démissionne. Bon, sans regret, sans le coup, j'ai un peu peur quand même. Enfin voilà, hein, c'est pas simple hein, parce que tu quittes un confort, tu quittes des compétences, tu quittes plein de choses où tu es à l'aise, où les gens te connaissent. Voilà, j'avais passé 7 ans là-bas, c'est pas rien, 7 ans quand même, 7 ans de ta vie, 7 ans où tu te
C'est sûr, c'est
construis,
sûr.
7 ans où tu deviens l'infirmière que tu es. Enfin, voilà, 7 ans au
Mais
même
tu dis
endroit,
que tu prends tes
c'est pas
décisions
rien.
assez rapidement, mais oui et non, parce que du coup, après la fac d'histoire, il y a quand même ce mois où tu travailles à l'hôpital qui te donne envie de poursuivre dans voilà, une carrière d'infirmière. Donc c'est quand même pas une décision prise comme ça. Il y a quand même voilà ce mois qui t'aide d'expérience. Et là, c'est cette journée avec ta maman qui peut-être te fait quand même le déclic et qui rend le métier d'infirmière à domicile plus concret et qui te fait envisager cette carrière-là.
C'est ça. Plus mes deux amies qui étaient parties en libéral, où elles me disaient, elles me vantaient de libéral, hein, concrètement, c'était exactement
C'est
ça.
vrai, ouais.
Donc bon, bah voilà, puis je me suis dit, mais j'ai rien à perdre, au pire, je repostule après à l'hôpital, en fait.
Ah ben
Ils
clairement.
rembauchent facilement les gens, en plus, ceux qui sont partis, parce qu'on est quand même des gens qui sont formés en cancérologie. Bon, j'étais partie, entre guillemets, proprement, bah voilà, c'est tout. Je me dis, je tente. Ouais.
Bon, bah super. Alors te voilà lancé dans les soins à domicile. Alors ça, c'est radicalement différent.
Complètement, ouais. Alors moi, quand même, la spécificité, c'est que je n'ai jamais eu de cabinet à moi. J'ai fait que des
D'accord.
remplacements. pendant des années, certains qui étaient plus ou moins longs. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas un peu le domicile, en fait, souvent les infirmières, elles travaillent, faut pas oublier quand même que il faut on travaille 7 jours sur 7 en tant qu'infirmière libérale, puisqu'il y a une obligation de continuité de soins. Donc il y a des infirmières qui sont deux par exemple, et donc il y en a une qui travaille, l'autre est en repos, enfin voilà. Mais tu as des infirmières qui ont leur cabinet toutes seules parce qu'elles n'ont jamais trouvé de deuxième personne, parce qu'une deuxième personne est partie du jour au lendemain, enfin voilà. Et donc en fait, ces infirmières, tant qu'elles n'ont pas de remplaçant, elles doivent travailler 7 jours sur 7. Voilà. Et j'ai connu des infirmières qui ont travaillé pendant des mois et des mois toutes seules, du 1er au 31. Ouais. C'est enfin inimaginable pour moi, mais elles l'ont fait et je comprends même pas. Enfin, voilà. Ouais, donc en fait, j'ai toujours trouvé des cabinets qui cherchaient des remplaçantes en réalité. J'ai même remplacé les deux amies avec lesquelles j'avais travaillé à l'hôpital. Elles avaient leur cabinet, donc j'ai travaillé avec elles. Ouais, c'était super chouette parce que j'ai retrouvé cette... Enfin, cette cohérence dans les soins, ce... enfin,
bah, tu les as reconnues à travers ce nouveau poste qu'elles avaient. Ouais, c'est rigolo.
C'est ça, exactement. C'était vraiment chouette. Donc, ça a duré 4 ans. 4 ans de remplacement.
Alors, à la fois le statut de remplaçant, alors j'imagine qu'il t'élimine quand même quelques contraintes administratives, le fait que le cabinet ne soit pas à ton nom, etc. J'ose imaginer hein, que c'est plus simple avec de gros guillemets. À la fois, c'est s'adapter sans cesse à une nouvelle patientèle. Et à peut-être des fonctionnements différents selon les cabinets aussi ?
C'est ça. En fait, j'ai peut-être fait sur 4 ans 10 cabinets, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que par exemple, le dernier cabinet, j'y suis restée 2 ans. Donc à la fin, les 2 dernières années, j'étais toujours dans le même cabinet. Effectivement, tout ce qui était administratif, je ne le faisais pas. C'était l'infirmière que je remplaçais. Voilà. Ouais, c'était s'adapter en plus à des populations différentes, à des infirmières différentes, à des façons de travailler vraiment... complètement différente, et c'était pas simple quand même, hein. C'était pas simple. Il y a des cabinets où ça s'est très très mal passé en fait, pas toutes à intention, mais il y en a, clairement je voyais qu'elles étaient là pour l'argent, enfin voilà. Il y a une infirmière un matin, je l'ai suivie pour qu'elle me présente sa tournée, et elle s'est pas lavé les mains une seule fois de toute la matinée. Je me dis, mais alors quand je dis c'est pas se laver, c'est ni eau, ni gel hydroalcoolique, rien du tout de toute la matinée. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Enfin, j'ai vu des choses complètement hallucinantes. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'ai vu des très belles choses, j'ai vu des belles infirmières aussi, attention, voilà. Mais le domicile, c'est quand même particulier. Enfin, je suis pas là pour redégoûter les gens, attention.
Non, pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de radicalement différent entre l'hospitalier et le domicile ?
Qu'est-ce que tu trouves radicalement différent ? Alors, premièrement, t'as pas de chef. Alors, bon, moi, j'avais pas de chef. En quelque sorte, j'avais quand même l'impression que l'infirmière que je remplaçais était un petit peu ma chef. Donc, il y avait quand même ce côté-là. Mais bon, c'était quand même des rapports très, très différents. Après, il y avait le côté un peu liberté parce que comme j'étais remplaçante, je pouvais aussi dire, ah bah non, cette semaine-là, je ne suis pas là. J'essayais quand même d'être très flexible parce que si j'étais tout le temps pas là ou si j'étais inflexible, les gens après ne faisaient plus appel à moi. Donc, voilà.
C'est ça.
Après, les soins, évidemment, moi, je venais quand même de l'hôpital. On avait extrêmement de soins techniques. Là, j'en avais beaucoup moins. Ce qui ne me dérangeait pas forcément, mais parfois, je me disais, ah là là, tel soin me manque. Malgré tout, voilà. Bah le salaire hein, évidemment on va pas se mentir qui est quand même bien plus important. Bon, si je me ramène au taux horaire on se fait arnaquer, mais ouais. À la fin du mois c'était quand même très intéressant quand même ce qu'on avait. Et puis par contre ce que je n'ai pas supporté d'ailleurs et qui était radicalement différent mais qui est évident, c'est qu'on n'avait plus de travail en équipe. Donc, ce qui m'a fait du bien au début, mais ce qui m'a manqué à la fin, en fait.
Voilà, t'es toute seule. On est très très seule à domicile. Ouais.
C'est ça. Et quand t'as un problème, en fait, ben t'es toute seule. Donc tu peux en parler. Moi, j'en parlais notamment à mes deux amis qui étaient aussi partis en libéral. On avait notre petit groupe. On l'a toujours d'ailleurs, ce petit groupe de discussion Messenger à trois où on se racontait nos histoires et tout ça. Mais c'est pas exactement pareil parce que, par exemple, quand t'as un problème à l'hôpital, tu sors de la chambre, tu vas tout de suite décharger auprès de ta collègue. Et en fait, ça fait du bien. Et là, tu peux pas parce que tu dois vite passer au patient suivant parce que t'as pas le temps, en fait, aussi. Il y avait ça aussi, ce manque de temps. Parce qu'à l'hôpital, j'avais ce sentiment que j'avais le temps. À domicile, j'avais quand même bien moins le temps. J'avais bien moins le temps.
Oui, et puis les soins sont déjà tellement peu valorisés d'un aspect, sur un aspect financier par les remboursements qui sont vraiment ric-rac. Hein. On compte, on en a parlé dans un épisode il y a très peu de temps avec Hélène, qui est infirmière libérale à domicile de nuit, et qui disait, oui, il faut faire rentrer le temps de trajet, dire bonjour, se laver les mains. Et puis là-dedans, il y a un acte avec une cotation de quelques euros. Et puis en fait, il y a tout le reste qui est là, quoi. Donc
C'est ça.
C'est dur, ça.
Tout ce qu'on voit pas quand on va à la pharmacie chercher les médicaments, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas de famille. Donc si on n'y va pas, ben en fait, il n'y a pas de travail. Enfin, c'est tellement logique en fait d'aller à la pharmacie. Il y a toutes ces choses à côté, tout ce temps de transmission, ce temps de, enfin, plein de choses. Donc le temps, la journée, à un moment, elle n'est pas extensible, hein, mais bon.
Est-ce que le fait de ne pas vouloir ouvrir un cabinet en ton nom, c'était une volonté de ta part? Le remplacement te convenait et puis tu avais des envies peut-être d'autres choses par la suite?
Eh bien non, justement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, je me disais, bah, un moment, je trouverais bien un cabinet où je me sens bien et puis on verra ce qui se passera.
Ah.
Et c'est ce qui s'est passé en réalité. En fait, je te disais que je suis restée dans un cabinet quelques temps et en fait, l'infirmière m'a proposé de m'associer avec elle, de poser ma plaque, enfin voilà, d'être...
D'accord.
Ouais. Et donc j'étais très emballée parce que ça se passait très bien avec cette collègue. On avait deux valeurs plutôt communes de travail. La tournée était très très agréable. Les patients étaient globalement sympas parce que j'ai vraiment eu des tournées avec des patients qui me manquaient de respect. Enfin, c'était hallucinant.
Ah.
Là, globalement, ça se passait très très bien. Et donc peut-être octobre, novembre 2019, on commence à en parler. Janvier 2020, je lui donne ma décision. Enfin, je dis que bah oui, je suis d'accord pour me lancer avec elle. Je commence les démarches, tout ce qui est administratif. Hein, c'est un peu barbant, donc je vais pas rentrer dans les détails. Et puis donc on est en janvier 2020, mars 2020 arrive, je suis toujours motivée, la pandémie arrive, c'est extrêmement compliqué à gérer en libéral, vraiment. En fait, mon mari travaillait à l'hôpital, c'était compliqué à l'hôpital, il travaillait dans un service Covid, mais ils avaient les moyens de se protéger, ils avaient un cadre au-dessus d'eux, nous on n'avait rien à domicile, on n'avait rien du tout, on allait chez eux, on allait soigner les gens qui avaient le Covid, on n'avait rien, et en fait, je me sentais, là, la solitude pesait de plus en plus, vraiment, c'était très très compliqué, et du coup, mai 2020, je commençais à me dire, mais en fait, non, je peux pas faire ça, en fait, en plus, les démarches avaient été mises en stand-by, puisque là, tout ce qui était administratif, ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, bon, réfléchis, Mélanie. Et là, j'ai encore vrillé. En un quart de seconde, j'ai décidé d'arrêter le libéral. Voilà. Alors, j'ai en un quart de seconde, j'ai quand même pesé le pour et le contre, mais j'ai dit non, j'arrête. Je l'ai annoncé à ma collègue. Ça a été très compliqué pour moi de lui annoncer parce que, quand même, quelques mois avant, je lui avais dit que je m'associais avec elle. Enfin, voilà, c'est pas rien. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est ça. En plus, c'était le moment. Donc, mai 2020, c'était au tout début, on était encore confinés. Donc, je me rappelle, je lui ai annoncé sur un bout de trottoir parce que je rentrais pas chez elle. Parce qu'on avait, voilà. Donc, c'était un peu un moment compliqué. Mais par contre, je suis pas partie du jour au lendemain. Parce que j'avais du respect pour elle et puis parce qu'en fait j'étais pas non plus à l'agonie et je suis restée jusque fin octobre 2020, le temps en fait aussi que l'été se passe, qu'elle ait ses vacances sereinement parce qu'après tout elle méritait de partir en vacances, et puis moi je sais plus pourquoi j'avais décidé octobre parce que j'aurais pu décider septembre, en réalité je ne sais plus, mais voilà, j'ai décidé de rester jusqu'à octobre 2020.
T'as fait les choses bien pour partir, que tu sois en accord avec tes valeurs à toi aussi, j'imagine, pour... pas lui manquer de respect, même si en partant plus tôt tu l'aurais pas manqué de respect non plus, mais j'imagine que c'était le bon choix à ce moment-là pour vous deux.
Il y a d'autres infirmières avec qui ça s'était mal passé, moins bien passé, et je veux dire, j'aurais eu moins de problèmes à dire bon, j'arrête là et c'est fini, mon contrat s'arrête là, ça s'arrête là. Elle, j'aurais jamais fait un coup comme ça, et puis j'étais encore plutôt bien dans mon travail parce que si j'avais été mal aussi, j'aurais peut-être pris soin de ma santé mentale quand même, mais j'étais quand même encore bien, et du coup, je savais que je pouvais aller jusqu'à octobre 2020 et que ça allait aller, et ça a été justement.
Alors, qu'est-ce que t'as envisagé du coup pour la suite à ce moment-là?
Alors, du coup, je m'arrête, c'était rigolo,
c'est
parce
comme
que
un feuilleton.
Ouais, les patients me disaient toujours « Alors Mélanie, vous allez faire quoi ?» et tout ça. Et en fait, j'avais pas de travail. Je m'arrêtais en octobre. Je me suis arrêtée, je crois, le 20 octobre, enfin quelque chose comme ça, et j'avais rien derrière. Alors, c'était marrant parce que tout le monde était là « Ah là là, mais comment vous allez faire ?» Je disais « Bon, je suis infirmière. » Nous sommes en pleine pandémie, je vais trouver du travail, ça va aller. Et puis j'avais de l'argent de côté aussi, hein, justement grâce au libéral. Donc je savais aussi que je pouvais voir venir. Donc en fait, je m'étais laissé 2 mois. L'idée, c'était de trouver quelque chose d'encore différent de l'hôpital et du domicile. Et si au bout de 2 mois, je ne trouvais rien de différent, je repartais à l'hôpital tout simplement. Je savais que j'allais trouver.
Donc, c'était une décision sage et réfléchie.
Oui, voilà, c'est ça. Je m'étais dit 2 mois, j'ai l'argent de côté, ça va aller. Ça va me faire du bien aussi de me poser parce que le libéral avait été très intense cette année-là. C'est fatigant. T'enchaînes des périodes. L'été, t'enchaînes 21 jours de suite de travail quand ta collègue est en vacances. Donc, Donc j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de ces 2 mois qui m'ont fait vraiment beaucoup beaucoup de bien. Le premier mois, j'ai pas trop cherché de travail. Enfin si, en fait parce que, enfin c'est marrant parce que je savais que je pouvais me le permettre, mais j'avais quand même cette culpabilité-là de pas travailler. C'était
Ah là là,
ah ouais,
c'est
j'ai
vrai,
pas réussi à m'en
le
détacher du
syndrome de
tout.
l'infirmière qui s'arrête.
Ouais. J'ai jamais réussi à m'en détacher. Et par exemple, il y a des moments, j'étais là, j'étais posée, j'en lisais un livre, je me disais, ah non, mais là, je devrais être en train de chercher du travail, c'est pas normal ce que je suis en train de
La
faire.
culpabilité.
Ouais, c'est dommage. Avec le recul, je me dis, oh là là, c'est dommage, j'aurais tellement dû profiter de ces 2 mois, mais bon, c'est pas
Ah, on est fait comme
grave.
ça, hein.
Bah, c'est ça. Bon, je commence à regarder les annonces sur Internet. Je savais que je cherchais quelque chose de différent, mais je ne savais pas quoi, en fait, chef. Puis, en fait, je trouve qu'à l'école, on ne me dit pas tout ce qui est possible en réalité. On nous
Ouais.
parle de l'hôpital, du domicile, un peu infirmière scolaire. Voilà, mais je trouve qu'on ne nous parle pas de tout ce qui est possible. Donc je savais que je voulais autre chose, mais je ne savais pas quoi. Donc c'était très drôle. Donc j'allais sur les sites d'annonces. Il y avait beaucoup de postes pour l'hôpital, évidemment, et beaucoup pour la gériatrie. Bon, ok. Et un jour, une seule fois, je me suis connectée sur le site de Pôle emploi. Et je vois, une fois, hein, vraiment, je vois une offre de poste pour une association sur Lille qui cherche une infirmière. Et en fait, il cherchait une infirmière qui avait fait et du domicile et qui se connaissait en addictologie. Bon, eh ben moi, je répondais qu'à un critère sur deux, puisque je n'avais fait que du domicile et que je n'avais jamais mis les pieds en addictologie, ne serait même pas en stage. Donc, je me suis dit, bon, postule, Mélanie, t'as rien à perdre. Vraiment, voilà. Le lien ne fonctionnait pas. Je me dis, bon. À un moment, je me suis même dit, je vais laisser tomber, mais je me suis dit, allez, je vais aller sur le site de l'association, je trouve une adresse mail, j'envoie un mail et on me répond dans la seconde en disant, vous pouvez postuler via cette adresse mail. Donc, je postule, mais en fait, en réalité, je ne savais pas du tout à quoi je postulais. On m'appelle, j'ai passé un entretien d'embauche, et en fait, donc c'est une association qui est sur Lille. Donc il y a 2 services dans cette association. Il y a un premier service avec des appartements de coordination thérapeutique. Donc en fait c'est des
D'accord.
gens qui ont des appartements sur l'île, pas au même endroit, des appartements diffus sur l'île, qui ont une maladie somatique. Donc ça peut être le diabète, ça peut être un cancer, ça peut être voilà ce genre de maladie. Et en fait nous les infirmières on les accompagne dans leurs soins. On ne fait pas les soins, mais on les accompagne en fait à leurs rendez-vous médicaux. On les aide parce qu'il y a des gens bah, qui ont besoin d'accompagnement pour ce genre de choses. Et il y a aussi tout un
D'accord.
pôle social qui va les accompagner dans toutes les démarches administratives. Voilà. Donc il y avait ce poste-là à temps plein. Et il y avait un deuxième poste donc, qui était à mi-temps sur les appartements de coordination thérapeutique et à un autre mi-temps sur. Alors là, c'est très très spécifique. En fait, c'est un espèce de foyer sur l'île, une grande maison où on accueille des sortants de prison qui ont un problème addicto. Donc, que ce soit alcool
D'accord.
et ou drogue. Donc, il y avait 2 postes. Un poste pour être à temps plein dans les appartements de coordination thérapeutique et le deuxième poste pour être sur les demi-temps. Et
OK.
on me rappelle, on me dit que leur premier entretien s'est bien passé, qu'on veut me voir pour un deuxième entretien. OK. Le deuxième entretien se passe. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il se passait très, très mal, ce deuxième entretien. Enfin, vraiment. Je me suis dit, oh, bah, c'est bon, je serai pas prise. En fait, bon, après, maintenant, je connais mes chefs, c'est leur façon de fonctionner, ils te cherchent, en fait. Voilà,
Ah.
c'est une façon de faire. C'était un vendredi, puis on me dit, bah, on vous recontacte lundi ou mardi, et puis on me rappelle. Et c'est vrai qu'on m'avait demandé pour quel poste je postulais. Moi, j'avais dit, je ne sais pas, parce qu'en réalité, je ne savais même pas. Enfin, là, moi, je
Lequel
t'explique les
des
choses,
deux?
sauf que j'avais pas tout compris, en fait. Hein. Donc, on me rappelle, et puis on me dit qu'on me voit bien, que je suis prise déjà, donc je suis très contente, et qu'on me voit bien
Ok.
sur les demi-temps. Ok, bon, bah,
D'accord.
très bien, voilà. Donc, ça, c'est un peu avant Noël, en plus, c'était ouais, quelques jours avant Noël. Donc, voilà, je suis attendue le 4 janvier 2021 pour mon nouveau poste. Et j'arrive le premier jour, je sais toujours pas ce que je vais faire, donc c'est assez drôle quand même. En fait, mon travail se découpait ainsi. Le matin, j'étais avec les sortants de prison, avec un problème addicto, et l'après-midi, j'allais dans les appartements de coordination thérapeutique.
Ah bah dis donc, te v'là lancé dans le grand bain. Alors est-ce que quelqu'un t'accompagne? Est-ce que dans un premier temps t'es doublé? Comment je me demande,
Ouais,
ça me paraît être l'Everest à gravir.
c'est ça.
On arrive dans ce
Ah
milieu
ouais.
associatif qui est radicalement différent de tout ce que t'as fait auparavant.
Même au niveau des collègues, j'avais des collègues éducateurs, enfin j'ai des collègues éducateurs. Voilà, je connaissais ce métier, hein, évidemment, mais j'en avais jamais eu à l'hôpital. Assistante sociale, très bien, on en a à l'hôpital, on les voit quand? Alors, c'est pas une
Ouais.
critique, hein, vis-à-vis de leur travail, mais quand en
Non, non,
général
non.
elles sont une sur tout l'hôpital, bah tu les vois en coup de vent, enfin, voilà.
Ouais. Et puis elles s'occupent surtout des patients, puis elles viennent pas trop discuter avec les infirmières. À raison, parce qu'elles ont déjà tellement pas de temps que.
Ouais, c'est ça. En fait, bah oui, j'ai été doublée hein, pendant surtout le poste du matin avec les en addicto. Là, j'ai été doublée 3 semaines avec une infirmière. Ce qui était rigolo d'ailleurs, c'était que le premier jour que je suis arrivée, c'était une infirmière qui était de ma ville en fait, avec qui j'avais grandi, qui était dans, on avait fait le collège et le lycée ensemble. On n'était pas amis, mais donc il y avait aussi ce petit côté rassurant de trouver un visage connu en fait ce jour-là. Voilà. Sauf qu'en fait, j'y connaissais rien du tout en addicto. Enfin, vraiment. Enfin, c'était le grand bain. Autant les appartements de coordination thérapeutique, c'était assez simple, dans le sens où ça restait de la médecine de ville. Donc, c'était assez simple dans le sens où c'est de la médecine de ville. Prendre un rendez-vous chez le médecin, on sait faire, accompagner. J'avais quand même pas mal de patients avec un cancer. Donc, forcément, mon expérience en cancérologie m'avait beaucoup aidée dans cet accompagnement-là. Voilà. C'était juste qu'il fallait comprendre le fonctionnement associatif. Par exemple, le fait d'avoir des réunions assez régulièrement, moi, c'était quelque chose aussi de tout nouveau. À l'hôpital, on fait jamais de réunions. Enfin, on n'a pas le temps pour ça. Voilà, c'était tout ça. Mais par contre, ça a été l'addicto qui a été un vrai challenge pour moi. Enfin, c'était...
Du coup, en addicto, ton rôle vis-à-vis d'un éducateur, par exemple, c'est que toi, tu es là pour de l'administration de traitement. C'est ça dans vos rôles ?
C'est ça. En fait, donc nous, on accueille les gens, en général, dès qu'ils sortent de prison. En fait, l'idée, c'est que là où on a un tremplin, en fait, entre la prison et des soins qu'ils peuvent avoir après. Ça va être des post-cures, ce genre de choses, pour stabiliser, en fait. Enfin, voilà. Et moi, en tant qu'infirmière, ouais, c'est distribution de traitement, mais c'est aussi accompagnement chez le médecin. Parce qu'en fait, nous, ils ne sortent pas seuls, en fait, du logement. Donc, je les accompagne chez le médecin et je fais le lien aussi entre le médecin, le patient. On dit résident, d'ailleurs, on ne dit pas patient. L'éducateur, lui, ça va être un accompagnement dans le projet d'après, en fait. Comme nous, c'est juste un passage de 3 mois en moyenne. L'éducateur, ça va être monter le projet, que va faire la personne derrière.
Ah, d'accord. Voilà. Toi, tu interviens 3 mois après la sortie de prison pour maintenir vraiment... j'ai pas compris. Ouais.
Non, si, 3 mois, pardon, c'est moi qui...
Ah, c'est ça.
Oui, si.
Donc toi, pendant 3 mois, tu maintiens le lien pour leur permettre de qu'il y ait une bonne observance du traitement, qu'il y ait un lien avec le médecin traitant, que le traitement soit bien mis en place, bien suivi. Et ensuite, l'éducateur, alors lui, il démarre en même temps que toi, mais lui, il garantit un suivi par la suite.
C'est ça, voilà. Mais en fait, je te dis, c'est une durée de 3 mois, mais ça peut être 1 mois. Si la personne arrive, que son projet... Parce que des fois, les projets sont déjà commencés en prison, parce qu'il y a aussi des travailleurs sociaux en prison. La personne va arriver chez nous, le projet est déjà ficelé, et la personne, elle va rester 1 mois, en fait, tout simplement. Et puis parfois, la personne, elle peut rester plus longtemps, on va pas la mettre dehors, surtout si ça se passe bien. Parce que des fois, ça se passe pas très bien, les prises en charge chez nous, ça peut arriver aussi. Mais 3 mois, c'est une durée moyenne, en fait, en quelque sorte.
Donc là, tu te retrouves un public radicalement différent, parce que donc l'addictologie, on est dans... Oui, il y a tout, toute une visée préventive, les risques, etc. Comment est-ce que tu abordes ça, toi, avec de l'inquiétude? Est-ce que peut-être... Je sais pas, je lance des trucs comme ça, mais est-ce que tu as peut-être une peur d'une certaine violence? Des gens qui sortent de prison, j'imagine, un quotidien qui est compliqué. Voilà, comment t'appréhendes ça à ce moment-là?
Eh bien, justement, j'ai pas eu peur. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en libéral, j'allais chez des gens, toute seule. Personne ne savait où j'étais. Je ne savais pas qui étaient les gens chez eux, en fait. Là, j'ai toujours un collègue avec moi, je suis jamais seule, en fait. Et donc, en fait, je me suis dit, mais je suis passée de 4 ans où tu te mets en danger. Attention, j'exagère. Mais en fait, quand je poussais des portes, moi, j'ai déjà eu peur devant certaines personnes, devant l'agressivité des gens à domicile et tout ça, que là, en fait, je me dis... mais là, ça va aller, je suis pas toute seule, en fait. Et du coup, j'étais très sereine dès le début. J'avais plus peur, en fait, par rapport à mon manque de connaissances en addicto que par rapport au public que j'avais devant moi. Et puis finalement, des sortants de prison, on en a à l'hôpital, on en a à domicile. Alors là, c'est juste que je n'avais que ce public-là. Mais en fait, pour moi, c'est des personnes comme les autres. Et ce sont des personnes comme les autres, de toute façon.
Bien sûr.
Et moi, j'essaie d'oublier. J'oublie, en fait, on oublie, on veut pas. De toute façon, tu peux pas travailler. Hein, si tu penses toujours... à ce qui s'est passé avant, tu peux
mais
pas.
C'est vrai que du coup, mais c'est vrai ce que tu dis, en libéral, tu vas chez des gens, t'as aucune idée de qui tu vas trouver derrière la porte, et ça peut être vraiment le pire comme le meilleur. Et là, finalement, t'es dans quelque chose de structuré, de cadré, et finalement de presque rassurant, avec de gros guillemets.
Ah oui. Ah oui, c'est puis on a un confort de travail. Enfin, voilà, j'ai retrouvé une sérénité qu'en fait que j'avais complètement perdue à domicile. Donc voilà, je te dis, ma vraie peur, c'était mon manque de connaissances en addicto. Enfin, c'était vraiment voilà. Mais bon, ça s'apprend en fait tout ça. Enfin, voilà.
Alors ça s'apprend comment d'ailleurs? T'as des formations, des choses qui sont intégrées dans ce que tu fais?
Alors, moi, j'ai fait ma première formation. Je suis arrivée en janvier 2021. J'ai fait ma première formation en octobre. C'est quand même assez tard, mais parce que ça arrivait qu'à
Ouais.
ce moment-là. Seulement, j'avais tous mes collègues, en fait. J'ai tout appris d'eux, finalement. Enfin,
Ouais,
leurs
ouais.
connaissances. Après, voilà, j'ai cherché plus, tout ce qui était plus thérapeutique. J'ai quand même cherché sur Internet. Enfin, voilà, de moi-même, parce que. Mais en fait, mes collègues, les anciens, en fait, c'est eux qui m'ont tout appris, en fait. Et ça m'a fait penser à quand je suis arrivée à l'hôpital de nuit et que je savais rien faire et que j'ai tout appris avec mes collègues de nuit. Bah là, c'était exactement la même chose en fait. Voilà, et ça s'est bien passé, ça se passe bien.
Et qu'est-ce qu'il faut, enfin, par quel, je me demande par quel morceau il faut prendre tout ça. Donc, on parle des traitements substitutifs, on parle des effets secondaires, on parle du syndrome de manque. Qu'est-ce qui est abordé?
Comment ça, qu'est-ce que tu entends par qu'est-ce qui est abordé
Pardon, dans la formation que tu as eue en octobre.
Alors, la formation de code, moi j'ai fait alors ça s'appelait la formation de base en addictologie. Donc,
Ok.
on a vraiment, c'était très très général, on a beaucoup parlé de traitement de substitution, que finalement je connaissais pas mal, mais ouais, c'est vraiment une formation de base, hein, vraiment. Et ben j'ai appris une chose qui était toute simple, enfin, pour moi, ce qui me semble toute simple maintenant, c'est qu'il faut arrêter aussi l'injonction à vouloir forcer les gens à arrêter de consommer en fait. Et je ne parle pas que de l'alcool, je parle aussi des drogues. En fait, il faut accepter que des gens vont consommer et qu'ils consommeront toute leur vie et que ça peut être un choix de vie. Et en fait, voilà, alors qu'on m'aurait dit ça il y a 3 ans, voilà, encore plus quand j'étais infirmière hospitalière, où par exemple j'avais des patients avec un cancer ORL qui continuaient à boire. Et oh là là, je trouvais que c'était aberrant. Je me disais qu'ils cédaient pas et tout ça. Et en fait, bah, j'ai changé radicalement de point de vue parce qu'en fait, bah, oui, les gens vont consommer et voilà, c'est pour ça, enfin, je sais pas si tu as déjà entendu parler des salles de consommation à moindre risque. Je sais pas, il y en a à Paris, il y en a une qui devait ouvrir à Lille, mais ça a été bloqué. Et en fait, bah, bon, c'est très personnel et c'est un peu politique ce que je vais dire, mais de toute façon, les gens consommeront de toute façon, donc ils consomment dans ces salles. Peut-être autant donner les salles, autant laisser les moyens aux gens de faire les choses bien, entre guillemets.
C'est
Voilà,
ce qu'on appelait les c'est ce qu'on appelle dans les médias les salles de shoot, alors où
oui, c'est ça, j'aime pas le mot
on
de toute
donne
façon,
ou voilà.
ouais.
C'est, enfin, je sais, voilà, du coup, toi, tu as le terme plus technique, tu vois, que
C'est
je connaissais
ça.
pas, mais où on permet aux personnes qui ont une consommation de drogue, alors régulière ou non, de leur fournir du coup du matériel stérile à usage unique pour qu'il n'y ait pas de risque d'infection, de choses comme ça. Y a, donc, en effet, c'est très politique, mais la parole, elle est pour toi aujourd'hui, donc c'est très bien d'avoir ton avis. Moi, je suis pas du tout là pour donner, par exemple, le mien. Mais voilà, il y a des personnes qui vont penser que tolérer ça, c'est inciter, et d'autres personnes qui, comme tu le dis, pensent que de toute façon, ces gens-là, avec cette aide ou sans cette aide, continueront de toute façon à s'injecter et à prendre des risques. Donc voilà, je donne juste les deux, je laisse les auditeurs se faire un avis sur la question, mais oui, ça c'est une question qui est très. Alors j'ai l'impression qu'on en entend un tout petit peu moins parler dernièrement, mais quand c'est les
Oui.
premières salles, en tout cas, ont ouvert, c'est un sujet qui était très très présent dans les médias.
Ouais. Et vraiment, je pense que ça, c'est ce que j'ai appris de mes collègues en me disant que bah, il y a des gens, ce serait. Ils décident de consommer et c'est OK avec ça. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la plus grande chose que j'ai appris en 2 ans. Ah, ouais.
Ouais, et
Et.
se dire ça, c'est pas forcément baisser les bras, ni accepter qu'on n'est pas utile, ou je sais pas, c'est voilà, c'est juste prendre le problème dans un autre sens, et puis arrêter de lutter contre quelque chose peut-être contre lequel on peut pas lutter pour certains cas, pour certaines personnes, mais
C'est
oui,
ça.
je vois ce que tu veux dire, c'est peut-être plus difficile à intégrer quand on n'est probablement pas immergé dans le secteur, quoi.
Oui. Mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que j'en parle maintenant un petit peu autour de moi, d'autres amis et tout ça. Enfin, voilà, je veux pas faire changer les idées des gens, mais aussi ben, montrer qu'il y a d'autres choses en fait. Enfin, voilà,
Bien
je trouve que
sûr,
c'est
bien sûr.
important aussi d'en parler.
Ouais, même sans essayer de convaincre, c'est bien d'en
C'est
parler, puis que
ça.
tout le monde ait conscience de ça, c'est très bien, d'éveiller un peu les consciences.
Mais du coup, pour en revenir à ce poste-là, du matin, je me suis révélée là-dedans. En fait, j'adore vraiment ce que je fais. Et à tel point qu'il y a un peu moins d'un an, je suis allée voir mes chefs en leur demandant s'il était envisageable d'avoir un temps plein, en fait.
Ah! d'accord. Oui.
voilà. Et sur le coup, ils m'ont dit oui. Alors, non, c'était en juin que je suis allée voir, je crois. Et ils m'ont dit, bah oui, pourquoi pas. On te laisse jusqu'à la fin de l'été pour nous donner tes idées, en fait, de ce que tu ferais de ce temps plein. Parce que c'est bien beau de vouloir un temps plein, mais qu'est-ce que tu en ferais? Et du coup, on s'est revus au mois de septembre, à la fin de l'été. Je leur ai exposé mes idées, puis ils m'ont rappelé une semaine après en me disant que c'était OK et qu'à partir de janvier, donc là, ça fait un mois, que c'était OK, je pouvais passer à temps plein dans ce poste.
Mais génial, félicitations, c'est super.
Merci. Ouais. Oh,
bon, et tu te vois encore, alors faut pas faire des plans sur la comète, mais tu te sens bien dans le poste, en tout cas pour le moment, c'est un secteur dans lequel tu t'épanouis.
Ah oui, j'ai trouvé une sérénité. En fait, par contre, j'adorais bosser à l'hôpital, mais j'étais tout le temps stressée, parce que même si je te dis qu'on avait un confort de travail, ben c'est pas rien, brancher une chimiothérapie, enfin voilà, ce genre de choses, c'est quand même, c'est pas rien. Là, j'ai trouvé une sérénité, je me lève le matin et je me sens bien, en fait. Bon, j'aurais toujours une petite dose de stress parce que c'est mon caractère, mais je suis heureuse d'aller travailler le matin, je suis heureuse de retrouver mes collègues, de retrouver les résidents, voilà, même si c'est pas toujours facile, mais c'est pas toujours facile avec les résidents comme ça a pu l'être avec des patients libérables à l'hôpital, en fait. Comme je disais, voilà, l'être humain est pareil partout, en fait. Hein. Il va être adorable, aussi un peu compliqué, et ça dépend, enfin, voilà. Donc, ouais, je me vois encore une belle paire d'années là-bas, je pense, en tout cas.
Oh, super. Alors, du coup, le message de cet épisode, c'était que, voilà, une infirmière, tu nous le prouves très bien, peut se réinventer, peut exercer dans plein de secteurs, et tu l'as dit, hein, pendant les études, c'est pas quelque chose qui est beaucoup, beaucoup abordé. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui est peut-être dans un poste, quel qu'il soit, hein, depuis plusieurs années, et hésite, parce que c'est toujours difficile, on sait ce qu'on quitte, on sait pas toujours ce qu'on retrouve derrière, mais voilà, quel est le message que tu voudrais faire passer? Alors, ça fonctionne pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour plein d'autres métiers aussi.
Ben moi, j'ai envie de leur dire de ne pas hésiter justement de se lancer. Parce que de toute façon, un retour en arrière est toujours possible. Alors, du coup, faut pas claquer la porte de son employeur et lui dire ses quatre vérités à ce moment-là, parce que du coup, le retour en arrière n'est pas possible. Mais on a quand même, alors surtout les infirmières et notamment les aides-soignantes, mais on a quand même une richesse. On peut aller travailler, mais dans tellement de secteurs différents que, voilà, moi, ça fait 13 ans que je suis infirmière. En fait, finalement, j'ai fait que 3 choses, mais c'est 3 choses où je suis restée quand même pas mal d'années. Et j'ai eu le temps quand même d'approfondir mes connaissances. Et en plus, tout ce que j'ai appris m'aide aujourd'hui. Par exemple, la cancéro m'aide dans mon quotidien parce que je peux avoir des résidents qui ont un cancer. Après, quand j'ai fait du libre, là, ce que je fais actuellement, c'est de la médecine de ville. Donc, par exemple, tous ces rapports que j'ai entretenus avec les médecins, les pharmaciens, tout ça, quand j'étais libérale, je sais comment ça fonctionne. Je sais que je peux aller à la pharmacie demander une avance de tel produit parce que je l'ai fait en libéral. Tout ce qu'on fait nous apprend quelque chose. Et donc, moi, j'ai envie de dire, n'hésitez pas parce que, voilà. Et même si vous vous trompez, ben en fait, c'est pas très grave parce que du boulot, nous, on en a partout et c'est vraiment... Enfin, moi, j'en avais ras-le-bol des fois d'entendre des infirmières qui râlaient, qui se plaignaient et tout ça. Elle change de poste, en fait. Enfin, vraiment... Et puis, des fois, ça peut être aussi rester dans le même hôpital, mais changer de service. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, voilà, je suis embauchée dans cet hôpital, j'ai quand même un confort, j'ai mon salaire, parce que c'est vrai qu'au bout de quelques années, on a le salaire qui augmente. Et financièrement, c'est pas toujours facile aussi de repasser à quelque chose de plus bas. Moi, c'est ce que j'ai fait là pour... Forcément, je passais du libéral, donc je savais que j'allais pas gagner la même chose. Mais je gagnais moins qu'à l'hôpital. C'est pas toujours facile, mais voilà, juste changer, même dans le même hôpital, changer de service, aller voir ailleurs ce qui se passe, ben c'est possible. Et voilà, n'hésitez pas vraiment. Maintenant, je trouve que quand on n'a pas les connaissances avec Internet, avec les collègues, on peut toujours apprendre. Enfin, c'est vraiment pas compliqué.
Ouais. Non, puis c'est intéressant ce que tu dis, que finalement, tes expériences passées, même si sur le papier, elles n'ont pas l'air d'être bien coïncidées, mais en fait, voilà, il y a toujours quelque chose que tu as vécu que tu peux remettre au service de ton nouveau poste par la suite. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai envie de tirer le trait encore plus loin. Tu vois, même la première année de la fac d'histoire, je suis sûre que tu as appris des choses aujourd'hui, des discussions avec des patients, des trucs. Non, mais c'est valable pour plein d'autres chemins de vie, de carrière, mais ça sert toujours, quoi.
Ah ouais, non, mais complètement, vraiment... Non, ouais, c'est chouette. Le libéral, moi, ça a été une période que j'ai pas beaucoup appréciée. Personnellement, quand j'y repense, ça me... Voilà, mais je regrette pas d'être passée par là, parce que je pense que je n'aurais pas postulé à ce poste-là si je n'étais pas passée par le libéral, puisque les critères, c'était connaître un addicto et avoir fait de la médecine de ville. Donc, pas de regret quand même. Enfin, voilà, les choses nous mènent à des endroits pour des raisons. Enfin, donc voilà, pas de regret quand même.
Ouais. Dans le parcours, il n'y a pas de hasard. Ah ouais, c'est
non, 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 vraiment pas.
Bon, bah super. Merci beaucoup, Mélanie.
De rien.
Merci pour tout ça. on arrive vers la fin de l'épisode, mais comme tu le sais, j'ai encore quelques petites questions à te poser. La première question, que dirais-tu à la Mélanie d'il y a 10 ans?
Oh bah c'est très simple, je lui dirais ce n'est que le début, tout simplement. Puisque comme je te disais plus tôt, je pensais que j'allais rester dans le même hôpital toute ma vie. En fait, pas du tout, c'est que le début.
Trop bien. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Alors, déjà, j'ai envie de te dire tout. Non, j'exagère un petit peu, mais je trouve que voilà, j'ai tout appris quand même pendant quand j'étais vraiment au poste infirmière. Mais la première chose, on en a parlé tout à l'heure sur le fait que les gens continueront à consommer, que c'était OK avec ça. Et la deuxième chose, là, ça va être plus l'injonction aux soins. Je trouve qu'on est dans une société où on parle tout le temps de dépistage, de ceci, de cela, de se faire soigner, machin et tout ça. Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire soigner, il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Et en fait, il faut l'accepter, ça. Et je trouve que pour beaucoup de soignants, c'est très compliqué. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, voilà, il faut accepter que les gens ne veuillent pas se faire soigner. C'est, voilà. Ça, je l'ai vu à l'hôpital, je l'ai vu en libéral, je l'ai vu là où je travaille maintenant. Et voilà. Et je trouve que ça, on n'en parle pas beaucoup pendant nos études. Ce qui est un peu normal, finalement. Puis, on n'a pas le temps en 3 ans de tout brasser.
Oui, c'est sûr,
Mais
c'est sûr.
il faut
Non, c'est
pouvoir
vrai que c'est pas abordé,
accepter.
mais c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Et quand on est soignant, c'est délicat. On a toujours, toujours, toujours envie d'aller plus loin. Voilà, comme tu dis, de traiter, de prévenir, de dépister, voilà, de plein, plein de choses. Et puis en fait, voilà, parfois on se heurte aussi aux besoins, aux envies profondes des patients. Il faut pouvoir
C'est
l'accepter,
ça.
mais c'est pas
Ouais,
facile,
c'est
c'est vrai.
ça. Ouais, c'est pas facile, mais je suis contente parce que j'arrive à le faire. Mais par contre, j'essaie toujours de savoir pourquoi quand même. Parce que
Oui.
si c'est, j'ai une bêtise, mais si c'est parce que la personne elle a peur d'une chose en particulier derrière et que je peux l'aider sur ça, bah ce serait dommage, par exemple. Mais si c'est
Complètement,
juste, j'ai pas envie de savoir, mais bien sûr, je n'ai pas envie de savoir et c'est OK. Enfin, voilà.
ouais. Faut que la personne elle ait toutes les armes, tous les éléments, et puis après elle fait les choix en
C'est
conscience, mais
ça.
je suis d'accord avec toi. Ouais. Si c'est la peur qui bloque, c'est un autre problème. La question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Ah, moi, c'est l'aventurier, tout genre. Mais ça peut être n'importe quand. Enfin, même si j'ai pas de coup de mou, je la mets, ça me fait du bien, cette chanson.
Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
C'est pas une phrase, mais juste quand on me dit merci à chaque fois, ça me réchauffe le cœur. Parce qu'en fait, on l'a pas souvent, le
Ah ouais.
merci. Et je le fais, je fais pas mon travail-là pour un merci. Mais du coup, quand on a un merci, il est tellement sincère que ça me fait du bien. Voilà. Je suis sûre qu'il y a eu plein d'autres phrases, notamment libérales et tout ça, mais que j'ai oublié. Je sais que quand on me dit merci, j'aime ce mot. Enfin, voilà.
Ça
Ça,
marque.
il est lourd de sens,
Ouais.
ouais.
Question suivante, ton meilleur fou rire au travail.
Ah, alors c'était très très compliqué de retrouver un fou rire parce que je sais que j'en ai eu 1 million à l'hôpital, mais comme c'est un peu vieux l'hôpital, voilà, j'ai un peu remobilisé mes anciennes collègues qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Et donc il y en a une qui m'a rappelé un souvenir assez drôle. Quand on était un week-end, on avait appelé un interne de garde pour une patiente qui n'allait pas bien. Et puis l'interne arrive, je crois que c'était la patiente, elle avait des diarrhées, mais vraiment assez importantes. Et puis l'interne arrive et je dis à ma collègue, oh là là, cet interne, il m'énerve, il demande toujours des ECG pour les patients. Et puis ma collègue, elle dit, bah non, quand même, il va pas demander un ECG pour une diarrhée. Et je dis, bah si, tu vas voir. Et donc il revient, et puis il me dit, oh, je vais vous prescrire, je ne sais plus quel traitement anti-diarrhée. Et puis il repart. Ma collègue, elle me dit, bah tu vois, il n'a pas prescrit d'ECG. Ouais, je dis, ah bah oui, bah c'est bien la première fois. Et il repasse la porte et il dit, bon, on va quand même lui faire faire un ECG. Hein. Et là, ma collègue, elle a explosé de rire. Et elle a un rire tellement communicatif, en fait, qu'on a rigolé pendant un quart d'heure. Mais voilà, et cet interne, je l'appelais tout le temps ECG Man parce que bah, il nous faisait rire. Enfin, c'était tout le temps, mais pour
Bah
tout, tout,
alors,
tout, tout, tout.
c'est un examen qui coûte pas cher, mais est-ce qu'il y a une explication, quelque chose, tu sais? Moi, ça me fait penser, je travaillais avec un chirurgien vasculaire tout au début de ma carrière, et les personnes qui étaient opérées d'une chirurgie de la carotide, qui se faisaient enlever du dépôt, non, je synthétise pour les gens qui écoutent, mais voilà, des dépôts de graisse, etc., dans la carotide, ils sortaient du bloc avec un drain. Et en fait, tant que ces gens étaient avec le drain, le chirurgien disait que ces patients doivent rester allongés 48 heures. Ce qui est quand même dur, parce que chirurgie de la carotide, normalement, on s'en remet bien, on peut marcher le lendemain sans problème et tout. Et je me disais, c'est fou. Et pourquoi il interdit à ces patients? Et en fait, il a un jour, j'ai su ça longtemps après, un patient qui s'est levé, le drain s'est coincé dans la roue du lit, la barrière, ou va savoir quoi. Ça a arraché le drain, le patient s'est mis à saigner. Je ne sais pas s'il était décédé, en tout cas, il y avait une situation dramatique derrière. Et à partir de ce jour-là, il avait décidé que les patients avec un drain ne se relèveraient plus jamais. Jusqu'à ce qu'on enlève le drain.
Nous, après, pendant mes années à l'hôpital, il y a le film Hippocrate qui est sorti. Je ne sais pas si tu l'as
Oui,
vu.
Oui.
Et à un moment, l'interne ne prescrit pas le CG et le patient meurt. Et en fait,
Ah
avec
bah
mes
voilà.
collègues, on se dit, ah bah c'est ça en fait.
Ah bah c'est sûr que c'est
Et quand
ça.
on a vu le film, ben, on s'est dit, il y a une histoire comme ça, c'est sûr. Enfin voilà. Mais du coup,
Mais
c'était
tu vois,
ça
avec cette
après ces
histoire de
années.
patients qui restent allongés avec leurs drains, finalement, ça coûte pas plus cher à l'hôpital. Alors c'est pénible parce que
Oui.
voilà, c'est des gens qui du coup ont des toilettes au lit et puis ils sont
C'est
en
ça.
pleine possession de leurs moyens, donc ils pourraient se lever, se laver seuls, etc. Donc ça rendait de toute évidence les choses un peu plus compliquées. Mais tu te disais, il y a dû y avoir voilà un événement dans la carrière de ce médecin qui fait que à partir de ce
Bah
jour-là, il a
c'est ça.
décidé que les patients avec des drains resteraient allongés. Enfin bref,
Ouais, c'est ça.
voilà, c'était
Mais bon.
pour rebondir sur les petites marottes comme ça
C'est
des
ça. Bon, en fait,
médecins.
chaque médecin a un peu leurs habitudes. Bon, bah c'est OK,
C'est
hein.
exactement. Exactement. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière?
J'ai un peu réfléchi, c'était un peu compliqué de trouver, mais alors j'ai mis le casse-tête chinois avec Romain Duris. Je ne sais pas si tu vois la trilogie. Alors j'ai choisi le casse-tête chinois parce que le titre est plus évocateur, mais en fait c'est les
Ouais.
trois films parce qu'en fait le personnage principal c'est quand même tout le temps, désolé du mot, mais le bordel dans sa tête. Et en fait c'est un peu ça moi parce que c'est toujours une remise en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et du coup moi quand je vois ces films j'ai toujours l'impression de me retrouver dans le personnage qui se questionne tout le temps sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est bien fait? Donc le casse-tête chinois.
Très bien, très bien. Un grand merci, Mélanie.
Merci à toi, Marielle.
Je suis ravie de t'avoir reçue et voilà une nouvelle preuve que on peut se réinventer à l'infini dans ce métier. Et moi, je te félicite d'avoir ben voilà franchi le pas à chaque fois, de sortir d'une situation confortable pour tester autre chose. Et puis on voit où ça t'a mené aujourd'hui. Donc bravo pour toutes ces décisions.
Merci à toi.
Merci, Mélanie. À bientôt.
Revoir.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast et de me laisser un commentaire si vous en avez envie. Je suis toujours très heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.